Philippe Mougel et Marie Serve en direct du Festival du court-métrage.
Bonjour Bertrand.
Bonjour, bonjour. Ah, ça marche.
Alors, ça marche. Hier, oui. Première chronique, c'était super. On va voir si la deuxième, elle est géniale.
Ouais, on va voir. Bon, c'est la deuxième, donc déjà, ça va un peu mieux. On est un petit peu moins stressé.
Ouais.
Alors donc oui, bah, ça vous dit quelque chose ça?
Oui, un peu.
Ah ouais, c'est la même qu'hier en fait. Donc on va refaire un blind test parce que hier ça a été très très mauvais, excusez-moi, mais donc je sais pas si les gens écoutaient hier à la radio. Alors c'est qui, c'est quoi, c'est quel film?
Quel film? Vous gagnez deux places pour deux tickets,
oui,
pour,
deux
le court-métrage.
Tickets pour le court-métrage.
Faut dire ce qui a gagné.
Un film de Quentin Tarantino. Hop là, là-bas. Bravo madame.
Bravo.
Oui,
et deux entrées pour le court-métrage.
On avait oublié de citer le nom de
du compositeur
qui s'appelle Bobby Womack. Voilà. Donc c'est dans un film de Quentin Tarantino, j'ai dit, de Jackie Brown. Mm-hmm. Donc, et en ouverture de cette nouvelle chronique, je vais vous rapporter une petite phrase de Samuel L. Jackson, qui est un acteur fétiche de Quentin Tarantino, et qui a dit: peut-être que si on sous-payait ces rappeurs modernes marmonneurs et que l'on surpayait les enseignants, il y aurait plus de gens intelligents et moins de musique de merde. Enfin, bon, moi j'aime bien. Hein. On n'a pas invité de rappeur aujourd'hui.
Non, demain.
Non. Ah, bon, ça tombe bien. Bon, c'est direct, c'est à la fois progressiste et réac, donc c'est très bien, c'est efficace.
C'est tout bon.
Alors, Jackie Brown. Vous vous doutez bien que je n'ai pas choisi ce film par hasard, hein, car il y a des plans-séquences dans Jackie Brown. Alors oui, je rappelle aux auditeurs qui ne nous écoutaient pas hier, c'est pas bien déjà, que la thématique principale de ma chronique pour cette semaine, hein, c'est sur Radio Arverne, sur le plan séquence. Et ben oui, j'ai tenté hier de parler de choses sérieuses, mais ça n'a pas été une franche rigolade, hein, notamment quand j'ai dû utiliser l'exemple nazi pour appuyer un point particulièrement féroce de mon argumentation. Donc, on va se calmer avec les sujets qui fâchent. Dans Jackie Brown, il y a des plans séquences. Mais le premier plan du film, est-il un plan séquence? Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en doute, vu le niveau du blind test, mais dans la scène d'ouverture du film, on voit Pam Grier, alias Jackie, dans sa tenue d'hôtesse de l'air bleu marine, se laisser porter par un tapis roulant aéroportuaire, son buste fier s'inscrivant au premier plan, alors qu'à l'arrière, défile un mur carrelé de mosaïques turquoises, et vertes, et bleues, et jaunes, et mauves, et que le générique couleur or apparaît à la gauche de Jackie, entre son menton et sa poitrine, juste au-dessous de la ligne de son regard, regard fier et absent, pointant droit devant, jusqu'à ce que le titre du film vienne envahir tout l'écran et cacher même le sujet qui le remplissait jusqu'à présent. Ce plan, il est assez long. Ça bouge, le mur bouge. La caméra, qui est portée par un travelling, tout en douceur, va à la même vitesse que Pam. On ne la quitte pas des yeux. Et il n'y a pas de coupe au montage. Mais cela suffit-il à dire qu'il s'agit d'un plan séquence? Marie, Philippe, vous avez des avis sur le plan séquence? Une petite définition peut-être?
Moi je dis que tant que c'est pas coupé, c'est un plan séquence.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
D'accord avec la fille.
Ouais, okay.
Copieur.
Ouais, non mais c'est vrai que c'est pas facile.
Il a bien retenu. Hein.
Alors, ne vous inquiétez pas, hein, parce que je suis allé voir Sylvie Carcedo. Sylvie Carcedo, qui est intervenante à l'école éphémère du cinéma pour l'atelier plateau de cinéma. Ça se passe toute cette semaine d'ailleurs à l'école de commerce, allez-y, c'est très chouette. Et elle y encadre des étudiants en cinéma qui préparent et tournent des plans séquences devant nous. Et elle accueille également le public et lui donne des explications très instructives et très pertinentes. Donc je vais la laisser se présenter, Sylvie, et nous parler du plan séquence.
Je suis Sylvie Carcedo, je suis chef opératrice et j'enseigne également à l'école Louis Lumière. Voilà, j'ai fait mes études à l'école Louis Lumière il y a très longtemps. En fait, j'ai encadré les étudiants en préparation, on a fait les découpages en amont. Enfin, les découpages, oui, parce qu'en fait, même si on tourne on tourne deux ou trois plans séquences dans la journée, l'idée c'est de faire en plan séquence les scènes qui ont été découpées dans les films qui ont été choisis. On fait un remake de Rain Man, réalisé par Barry Levinson. On fait un remake de Tombée du ciel, un film réalisé par Philippe Fioret. Et Le huitième jour, Jaco Van Dormael. Ce qui n'est pas un plan séquence, c'est une scène qui est entièrement découpée. En fait, le plan séquence, c'est l'idée de suivre l'action ou pas, sans coupe. C'est-à-dire que la caméra suit les comédiens ou ne les suit pas, mais en fait, c'est l'idée d'un plan plutôt long où il n'y a pas de coupe. Parce et nous, c'est un peu ce qu'on essaye de faire en fait. Toutes les scènes qui sont tournées en champ contre champ, et on essaye de trouver une astuce pour ne pas faire de coupe entre le plan sur le comédien par exemple et le plan sur la comédienne qui lui répond, de lier tout ça en un seul plan.
Et est-ce que tous les plans longs sont des plans séquences ?
Ah bah pas forcément, bah non. Enfin, oui et non, ça dépend. C'est vrai que la définition du plan séquence, c'est assez difficile.
Eh oui, c'est pas facile, et même pour les spécialistes. Mais je vais essayer de tenter de vous éclaircir. Attention, ça va commencer à devenir technique. Donc j'ai fait quelques recherches, et évidemment, les définitions divergent, hein, mais on peut quand même essayer de donner un certain nombre de critères qui peuvent définir le plan séquence. Le premier élément, et vous ne l'avez pas cité celui-là, mais il est plus ou moins inscrit dans le thème, c'est que le plan séquence doit couvrir une durée suffisamment longue. Et oui, il n'y a pas de longueur minimale du plan, évidemment, mais un plan séquence de 10 secondes qui réunirait toutes les autres conditions, a priori, ne serait pas considéré comme un véritable plan séquence. Et notre plan d'ouverture de Jackie Brown remplit ce critère, puisqu'il dure largement plus d'une minute. Le deuxième critère est aussi rempli, en partie. Ce deuxième critère, il nous dit que ce doit être un plan non coupé au montage, donc c'est ce qu'on a dit, continu, mais aussi, et c'est maintenant que ça se gâte un peu pour Jackie, qui doit couvrir la totalité d'un segment autonome, donc une scène, une séquence, et une pluralité d'événements. C'est-à-dire qu'on doit assister à une suite, à un enchaînement de plusieurs événements distincts. Et du coup, il y a un corollaire technique à cet élément, c'est qu'on a affaire à un montage interne. C'est ce qu'on appelle le montage dans la caméra. Ça va ? Vous suivez ? C'est technique, hein, attention. Et donc la caméra, elle est censée se déplacer pour aller chercher d'autres valeurs de plan, d'autres cadrages. Voilà. Et de là découlent des très grandes difficultés techniques, car il faut que les acteurs, les figurants et les différents corps techniques enchaînent les actions sans faire d'erreur, si l'on peut dire. Ce sont donc des jours, des semaines, des mois de préparation et de répétition pour un temps de tournage réduit. Et il existe ce qu'on appelle des films séquences, c'est-à-dire tourner en un seul plan séquence. Ce qui n'est d'ailleurs possible que depuis l'avènement du numérique, puisqu'auparavant, les magasins où l'on met la pellicule contenaient seulement 305 mètres de pellicule, ce qui équivaut à 11 minutes de film à peu près. Voilà. Et du coup, avec le numérique, on utilise le plan séquence de plus en plus, il n'y a plus de limite. Et il y a quelques films séquences qui sont apparus, comme L'Arche russe, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, de Alexandre Sokourov, qui a été tourné en 2002. Et il a été tourné uniquement dans le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et c'est une grande fresque qui plonge au cœur de l'histoire russe. Et le film devait être tourné en un seul jour, en raison du lieu de tournage et du coût, parce qu'il y a 1500 comédiens, 22 assistants réalisateurs, des centaines de techniciens, évidemment, et des mois de répétition. Et alors, pour l'anecdote, c'est assez rigolo, c'est que la quatrième et dernière prise possible fut l'unique bonne prise. Donc, on a eu 3 mauvaises prises avant et une dernière vraiment sous pression. Donc, imaginez un figurant qui fait un petit faux pas lors de cette dernière prise. Je pense qu'il est fusillé direct. Donc, voilà. Alors, il y a encore un dernier élément qui entre en compte, dans la définition du plan séquence. En tout cas, c'est un élément avec lequel jouent les réalisateurs et avec lequel ils sont plus ou moins obligés de composer, c'est la virtuosité, la spectacularité, on pourrait dire. Parce que pour réussir en long plan séquence, il faut évidemment des équipes techniques et artistiques au top, mais il faut aussi adapter le matériel, l'utiliser au maximum de ses possibilités. Et il y a certains équipements, comme la grue ou le Steadicam, qui sont devenus emblématiques du plan séquence. Le Steadicam, Marie, Philippe ?
C'est une caméra portative qui permet de marcher ou courir tout en filmant.
Ouais. C'est ça, vous vous êtes coordonnés tous les
deux. Non, on est des pros, nous.
Oui, alors je vais vous donner la définition exacte.
Surtout que je vais casser ta chronique, tu vas voir.
Le Steadicam, en fait, c'est un système stabilisateur de prise de vue portatif qui permet la prise de vue en travelling fluide grâce à son système comportant généralement un
harnais. C'est mieux dit, mais c'est pareil.
Un bras articulé, un système de stabilisation de caméra actif, mécanique ou électronique, et une visée hors caméra, etc. etc.
Avec des amortisseurs,
voilà.
Quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc, la grue et le Steadicam sont utilisés pour l'ouverture du film dont vous allez entendre la bande originale. Attention, blind test. Ça, c'est très difficile. Enfin, je ne sais pas, peut-être pas. Ouais, encore plus difficile. Mais je vais vous aider. Bien comme musique. C'est un film qui a été tourné en 98. C'est le premier film d'un très grand réalisateur actuel qui a fait beaucoup de films par la suite. Pas d'idée. Il s'appelle...
Non.
Bien, Philippe, superbe. Titanic, il a dit. Non, c'est pas ça. Non. On se rapproche parce que dans Snake Eyes, en effet, il y a un superbe plan séquence au début de 12 minutes. Non, cinquième élément, non. C'est un film de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson qui a fait récemment... Qu'est-ce qu'il a fait récemment? Je ne sais plus.
Lisez sur sa fiche, là.
Vous avez le droit de tricher, si vous voulez.
Il y a toujours les deux tickets à gagner?
Oui, c'est ça. Allez, on se motive un petit peu.
D'accord.
C'est là.
Boogie Nights.
Oui, Boogie, on dit en
français. Boogie. Bibi.
Boogie Nights, ouais. Je vous conseille, c'est un très très joli film. Ça parle de l'univers pornographique dans les années 70 aux États-Unis.
Voilà. Bien, est-ce que j'ai bien. Les deux tickets?
Oui.
Yes.
J'ai le droit de tickets. Ouais, non, vraiment, je vous engage à regarder cette première scène parce que du coup, il y a un super plan séquence au tout début. C'est souvent au début qu'il y a des plans séquences d'ailleurs. Et ça nous plonge dans une boîte de nuit à la mode de San Fernando Valley qui est à côté de Los Angeles. Et ce plan séquence réussit à nous présenter tous les personnages principaux du film en 3 minutes. C'est-à-dire qu'on passe d'une vue extérieure surplombant la rue et la boîte de nuit, et on entre dans le club en compagnie de 3 personnages principaux et après on va voir les autres.
C'est le plus intéressant du film finalement.
Non, je te conseille de le regarder, c'est très, très, très instructif et très, très intéressant. Et du coup là, il y a dans ce petit plan séquence du début, il y a une transition tout en douceur entre une grue, donc il y a la grue qui est au-dessus de la rue, et on va passer au steadicam. Donc on ne voit absolument pas le passage entre la grue et le steadicam parce qu'il faut que la caméra évidemment descende de la grue. Donc voilà, c'est très, très, très virtuose.
Ouais.
Et bien voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On continue demain. Hein. On reste sur le plan séquence. On va décortiquer un peu ça et essayer de comprendre pourquoi il est autant utilisé, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'utilisation du plan séquence, alors que c'est quand même assez complexe à réaliser.
D'accord. Eh bien, merci, Bertrand.
De rien.
On a pris des notes et demain, on sera encore plus fort.
Ouais, mais moi, ça me donne à réfléchir. Je me dis qu'une action qui se déroule sur 1h30 et qu'on peut regarder en un seul plan séquence, ça existe depuis des siècles. Ça s'appelle une pièce de théâtre.
Exactement, tout à fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Sauf que dans la pièce de théâtre, il y a des ellipses.
Ah oui.
Et alors, dans le plan séquence,
pas obligatoirement, on peut faire une pièce de théâtre sans ellipse.
Oui, on peut. Mais c'est vrai que ça, voilà, c'est pas. Voilà. Non, c'est pas...
Vous allez en discuter pendant la pause musicale qui va suivre.